Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
Les coulisses médias d'un geste fort, les dessous des services publics, une interview inattendue et une grande première pour la France.
Quel sommaire ? On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
Et la course a été très serrée. 20 000 téléspectateurs d'écart seulement entre les deux premiers. Ouais, c'est M6 qui s'impose avec Le Meilleur Pâtissier saison 9, avec Mercotte à distance, vous en parliez hier Philippe. 3 200 000 téléspectateurs et 15,6% de part d'audience et surtout 29% sur les femmes de moins de 50 ans.
Leur cible.
Voilà, France 2 est juste derrière, donc avec un téléfilm inédit, Le Diable au corps avec Zabou Bretman, au compteur 3 200 000 téléspectateurs aussi et 13,5% de part d'audience. Enfin, TF1 est troisième et pas loin non plus, avec la suite de sa série médicale New Amsterdam saison 2, 3 millions de personnes, soit 13% de part d'audience et 23% des femmes de moins de 50 ans.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec les coulisses de la diffusion très mouvementée du dernier match du PSG.
Oui, c'était en Ligue des Champions mardi soir. Les Parisiens affrontaient un club d'Istanbul, mais le match a été interrompu dès la 13e minute à cause d'un comportement à caractère raciste de l'un des arbitres. La situation était totalement inédite. Les joueurs des deux équipes ont quitté le terrain et le match n'a repris qu'hier à 18h55 à la demande de RMC Sport. C'est la chaîne qui diffusait la rencontre et qui était en charge de la production. C'est ce que nous a révélé le directeur des rédactions de RMC Sport, Rodolphe Masset.
C'est nous, RMC Sport, qui avons demandé à ce que le match soit reprogrammé à 18h55, puisqu'à 21h hier soir, il y avait aussi l'Olympique de Marseille qui jouait à City. Donc on a préféré que ce soit à 18h55. Et là, ça a été une course contre la montre pour les équipes de production dirigées par Luc Panier, parce que dans la nuit de mardi à mercredi, ils ont très peu dormi. Puisque donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un match de Ligue des Champions que l'on produit, nous, RMC Sport, on produit aussi le signal pour l'ensemble des diffuseurs. Du coup, ça veut dire une centaine de personnes entre la production du match et notre plateau privatif. Et évidemment, sur ces 100 personnes, il y en a qui n'étaient pas disponibles le mercredi puisqu'elles étaient déjà bookées pour d'autres événements le mercredi soir. Donc là, les équipes de prod ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour caler le dispositif de production pour qu'il soit opérationnel hier.
La chaîne avait délocalisé son plateau au Parc des Princes, qui lui a permis d'être au plus près des événements, mais qui a eu un coût qui s'est alourdi puisqu'il a fallu rester sur place hier et produire la deuxième partie du match.
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une double production, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé 100 mardi soir et de nouveau 100 mercredi puisqu'il y avait déjà toutes les installations techniques qui avaient été faites. Donc on n'est pas à un double coût. Le surcoût, on est en attente de le chiffrer, mais c'est quand même un surcoût important. Et après, évidemment, pour le moment, c'est quelque chose qui n'était prévu dans aucun texte de l'UEFA. Il va y avoir des discussions pour savoir si l'UEFA va participer à la prise en charge d'une partie des coûts. Là, je ne peux pas m'avancer parce que franchement, les discussions n'ont pas eu lieu.
Le PSG a gagné 5-1, on n'a pas donné le score, de toute façon ils étaient déjà qualifiés. Et les huitièmes de finale, ça c'est l'info média, ça sera aussi sur RMC Sport. Football et médias encore, avec une journée importante dans le feuilleton Média Pro.
Ce matin, c'est l'heure des premières conclusions pour Marc Sénéchal. C'est lui que le tribunal de commerce de Nanterre a nommé pour arbitrer le litige entre Média Pro et la Ligue de football professionnel. Lors du conseil d'administration de la Ligue, Marc Sénéchal va évoquer la seule option viable pour une sortie de crise selon l'équipe, récupérer les droits cédés à Média Pro. Une solution qui entraînerait la fermeture de la chaîne Téléfoot, distribuée par les fournisseurs d'accès et que Mediapro devrait donc dédommager. C'est cette équation qui doit être résolue avant que Canal+ ne puisse officiellement entamer des négociations pour reprendre les droits et venir au secours de la Ligue.
Le focus programme du jour, c'est le retour de Cash Investigation sur France 2 avec une enquête sur le service public.
L'équipe d'Élise Lucet s'intéresse ce soir au premier employeur en France, l'État. Il est partout, à l'hôpital, à Pôle emploi, dans les caves, dans les préfectures. Comment fonctionnent ces entités pilotées par l'État alors qu'une politique d'économie budgétaire est menée depuis de longues années? France 2, qui est au passage aussi une entreprise contrôlée par l'État, promet de montrer la réalité des services publics, bien loin des clichés de stabilité de l'emploi, de jobs tranquilles et de salaires garantis. Pour parvenir à ces révélations, la journaliste Marie Maurice s'est notamment fait embaucher dans un service de nettoyage auquel certains hôpitaux publics sous-traitent leur entretien, une enquête réalisée avant la crise du Covid. Cash Investigation s'est également infiltré à Pôle emploi et dans des préfectures où des jeunes en service civique remplacent parfois des agents publics. Et le diagnostic est le même dans ces différentes entités, comme l'a expliqué Marie Maurice à Louise Bernard.
Il y a un certain nombre d'alertes qui remontent sur le fait que les missions de service public qui sont finalement prises en charge par des employés, des sous-traitants ou par ces volontaires en service civique La qualité de ces missions de service public les inquiète, eux, en tout cas, au premier chef. Ils ont tous un point commun, c'est de ne pas avoir le sentiment soit de rendre suffisamment ce service public aux usagers, soit de ne pas avoir les moyens de faire leur travail correctement, ou à l'inverse, par exemple, pour les volontaires du service civique, eux ont le sentiment, en fait, que la mission qu'on leur confie déborde les prérogatives d'un service civique.
Service public, liberté, égalité, rentabilité, point d'interrogation. Nouveau document de Cache Investigation ce soir à 21h05 sur France 2.
Une interview inattendue donnée au magazine Forbes. Forbes, magazine connu pour son classement des plus grosses fortunes mondiales.
Oui, c'est l'interview de François Hollande, inattendue parce que le magazine économique n'est pas forcément le média dans lequel on attendrait l'ancien président de la République. François Hollande y évoque longuement l'un des grands chantiers de son quinquennat, l'économie sociale et solidaire. Mais il est aussi interrogé sur les mots très durs qu'il avait eus sur le monde de la finance lors de sa campagne présidentielle de 2012. 8 ans plus tard, il s'en explique dans cet entretien, comme l'a révélé le rédacteur en chef du magazine qui a réalisé l'interview, Yves Deray.
Alors je crois quand même qu'il avait dû évoquer ce sujet-là rapidement, comme cela au débotté, parce qu'on lui avait demandé une explication de texte. Mais là, disons que dans Forbes, il savait qu'il allait en parler. Moi, je l'avais d'ailleurs pas caché à son chargé de communication. Évidemment, puisque c'était Forbes, c'est un journal qui fait le classement des milliardaires, le classement des grandes fortunes, qui évoque parfois des sujets purement financiers. On a une section du magazine consacrée à la finance, donc c'était assez évident qu'on allait évoquer ces sujets-là.
Voilà, François Hollande explique qu'il n'a rien contre les banques à partir du moment où elles permettent de soutenir les entreprises et les particuliers qui font tourner l'économie réelle. Ce qu'il dénonçait à l'époque et qu'il dénonce toujours, ce sont les pratiques spéculatives outrancières ou le recours aux paradis fiscaux, par exemple. Le nouveau numéro de Forbes consacré au luxe et à la philanthropie, est dans les kiosques depuis ce matin.
La France va organiser l'Eurovision Junior l'année prochaine. Est-ce que vous imaginez ?
Moi j'imagine, vous avez reconnu la chanson
Évidemment.
De Valentina, c'est elle qui a remporté l'Eurovision Junior il y a 10 jours et grâce à elle, la prochaine édition du concours aura lieu en France pour la première fois. C'est la tradition, le pays qui remporte l'Eurovision accueille l'édition suivante, mais ce n'est pas automatique. Hier, France Télévisions a confirmé son intention d'organiser l'Eurovision Junior 2021. Pour l'instant, on ignore quelle ville accueillera le concours et à quelle date il sera organisé.
Ouah putain, Netflix prépare une nouvelle émission consacrée aux gros mots.
Et oui, pas de gros mots à l'antenne.
Non.
C'est l'acteur Nicolas Cage qui va présenter donc cette émission. Ça va s'appeler The History of Swear Words, en français l'histoire des gros mots. Netflix a commandé 6 épisodes
au cours
desquels le comédien interrogera des historiens, des comédiens ou encore des experts en étymologie.
Et on a hâte de voir comment ils vont le traduire quand ça va passer en français. Et puis on termine ce journal avec un nouveau projet pour Mariah Carey.
Eh oui, j'ai trouvé un moyen de vous faire écouter du Mariah Carey ce matin.
Non mais c'est toujours le même titre en plus.
Ben oui, mais c'est bientôt Noël.
Ah oui,
on en mettra d'autres l'année prochaine si vous voulez. Mariah Carey a indiqué qu'elle avait entamé des discussions pour adapter son autobiographie qui était sortie en octobre dernier. Elle s'était hissée en tête des best-sellers aux États-Unis. Pour l'heure, on en est qu'au tout début des discussions. Le projet pourrait devenir une série ou un film et Mariah Carey elle-même pourrait passer dans la chaise du réalisateur, de la réalisatrice en l'occurrence.
Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.